Et nous en sommes à la face B de cette huitième cassette de l'ensemble des interpellations fraternelles en Église du Québec. Et je vous mentionnais il y a un instant que trois motifs m'ont poussé à procéder ainsi à la proclamation de cette bonne nouvelle. D'abord, une forte poussée à l'intérieur, un goût irrésistible à partager cette découverte et expérience de vie des 15 dernières années. Je me serais senti vraiment un mauvais riche si j'avais voulu garder cela pour moi et pour nous. Mais à cette poussée est venu s'ajouter un désir express du Seigneur qui m'a explicité dans un message authentique transmis le 31 décembre 83 par une religieuse reconnue en Église pour son charisme de prophétie, un message où le Seigneur m'incitait à aller dire en Église ce que lui nous avait donné comme réponse à la question. Le message de cette religieuse avait lui-même été prophétisé 10 ans plus tôt, en 75. Enfin, une autre raison qui m'a influencé à vouloir nous alerter tous publiquement, aussi franchement et fraternellement, de ce qui se passe en Église ou de ce qui ne se passe pas et devrait se passer, c'est le fait que, actuellement, sous la mouvance de l'Esprit du Seigneur, il y a dans l'ensemble des fidèles, donc à la base, de plus en plus de gens qui s'imposent de faire des discernements vraiment spirituels et souvent même communautaires, et de gens qui reçoivent le charisme de discernement. Donc, un nombre qui ne cesse de croître, de personnes aptes à faire une lecture objectivement juste, inspirée par l'Esprit du Seigneur, de la vie réelle de l'Église, tant sur ses points valables que sur ses points faibles. L'ère où l'on a cru, d'ailleurs naïvement, qu'on pouvait ou on pourrait continuer à sauver les apparences, à camoufler nos lacunes et nos erreurs par des opérations de diversion ou de séduction sentimentale, est bel et bien révolue depuis longtemps, même si certains semblent y croire encore. Par ailleurs, comme vous avez pu le constater, mes chers amis, dans ces interpellations, je ne viens pas dénigrer ou décrier l'Église en tant que telle. Je viens seulement regretter, déplorer devant vous et avec vous qu'elle ne soit pas encore plus unie, plus sainte, plus catholique, plus apostolique, donc plus vivante et percutante dans le monde d'aujourd'hui. Malgré ces succès nombreux et édifiants, au grand total, je l'ai dit à quelques reprises, elle ne fait pas encore le poids face aux forces adverses et demeure bien en deçà, quantitativement et qualitativement, de ce qu'elle devrait et pourrait être au gré tant du Seigneur que des fidèles. Pour certains, nul doute que ces quatre interpellations vont paraître sévères. Oui, j'en conviens. Sévère, oui. Exagéré, non. Elles ne sembleront exagérées que pour ceux et celles qui ne voient pas encore ou ne veulent pas voir toute la situation. Elles sont sévères en ce sens qu'elles sont rigoureuses, exigeantes, vont à fond et au fond des choses. C'est vrai, également en ce sens qu'elles obligent à une option radicale, à une conversion de cœur et d'esprit, qu'elles nous acculent au mur en quelque sorte et nous laissent aucune échappatoire, fuite ou porte de sortie. C'est vrai, en ce sens, elles sont sévères. Quand vous parlez, a dit Jésus, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. En ce sens que la bouche doit proférer ce qui est dans le cœur. Cette sévérité des interpellations fraternelles, croyez-moi, n'est pas une pure invention de ma part. Elle a germé dans mon cœur très docile et très attentif au désir du Seigneur au cours de ces 15 dernières années. Le Seigneur nous prie avec tout son amour et toute sa miséricorde, mais avec non moins de clarté et de fermeté, de considérer sérieusement que nous en sommes arrivés en tant qu'Église à une heure décisive, sans précédent, en ce siècle du moins, où il faut que notre oui soit un oui, où notre non soit un non, fin prêt ensuite à emporter toutes les conséquences. En parlant de sévérité et en guise de détente, il faut que je vous raconte rapidement le songe amusant que Cristallin a fait au cours d'un long temps de prière et de paix auprès du Seigneur. Il m'a confié qu'il a comme entrevu et entendu à la fois une conversation qui se poursuivait de façon privilégiée, à mon sujet semble-t-il, entre un certain confrère, il n'a pas pu voir si c'était un évêque ou un prêtre, et le Seigneur. Et ce confrère était en train de dire, « Seigneur, quand mon frère Charles Mathieu commettra une faute à mon égard, surtout osant dire et redire qu'en Église il faut que nous devenions de plus en plus saints, que l'Église doit devenir encore plus spirituelle, combien de fois au juste dois-je lui pardonner, Seigneur? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus a répondu, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Es-tu sérieux, Seigneur, de rétorquer mon confrère? Penses-tu vraiment ce que tu dis? Ça voudrait dire, au strict minimum, 70 fois 7 fois, ça veut dire 490 fois. Et même davantage, puisque les exégètes, eux et elles, ces chers, précisent même que le vrai sens de ton expression 70 fois 7 fois, ça veut dire indéfiniment. C'est pas des farces. Que tant que Matthieu va continuer à nous interpeller de la sorte, nous vouloir meilleurs que nous sommes, nous provoquer ainsi au nom de ton évangile, de ton Église, etc., il va falloir continuer à l'endurer et surtout à le lui pardonner. L'endurer à la rigueur, ça pourrait aller, mais lui pardonner, ça, c'est pas facile et c'est surtout contrariant. Quant à finir par accepter ça, aimer ça ou changer, Seigneur, tu m'en demandes beaucoup trop. Tu y vas, à mon respectueux avis, pas mal fort. Et le Seigneur, regardant mon confrère, paraît-il, évêque ou prêtre, je ne sais pas, Cristallin n'a pas pu reconnaître ce profil, le Seigneur, avec le plus beau et tendre des sourires, lui dit, « Si c'est trop pour toi de l'aimer et de lui pardonner comme un ami, alors tournons la page de l'Évangile et je vais te donner un autre conseil. » Et le Seigneur dit, « Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et Cristallin ajoute que tout subitement, tout s'est terminé là. Mon confrère s'est excusé car il avait, paraît-il, un soudain rendez-vous important ailleurs. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, dois-je le dire, mais je le dis quand même, ces interpellations fraternelles en Église constituent la plus importante et la plus délicate mission à la fois prophétique, pastorale et communautaire que j'ai eu à remplir dans toute ma vie jusqu'ici. Prophétique en ce sens qu'elle n'est pas de mon vignoble ou de mon cru, mais exclusivement de son cru à lui. Je ne proclame, je vous l'assure de tout mon cœur, que ce qu'il a bien voulu m'enseigner et me faire découvrir, m'a obligé de mettre en pratique intégralement avant même d'en parler, et m'incite aujourd'hui à proclamer et à réclamer à temps et à contre-temps selon ses propres précisions. Pastoral, en ce sens que tout converge vers le bien des âmes, avant tout et surtout, leur sanctification constante et leur salut. Communautaire, mission communautaire, en ce sens que cette mission s'accomplit, alors que je baigne depuis des années dans du communautaire chrétien de haute gamme. En effet, quelques centaines de frères et sœurs, appelés collaborateurs agréés, collaboratrices, m'entourent. Ils sont très représentatifs de toutes les régions du Québec et d'ailleurs au pays et à l'étranger, de tous les âges, à compter de l'adolescence jusqu'à l'âge d'or et diamanté, de tous les états de vie et de travail, de tous les types de personnalités, d'itinéraires spirituels des plus variés, de nombre de prêtres, religieux, religieuses, etc. Ces frères et ces sœurs bien-aimés constituent pour moi une preuve vivante, constante sous mes yeux, que cet appel du Seigneur à un nouveau style de pensée de vie en Église s'adapte et s'adopte parfaitement bien à et par tous en Église, sans exception. Leur présence facultative à mes côtés, car, aux fondations, chacun est à 100% libre d'entrer, de séjourner ou de sortir de nos eaux territoriales quand il le veut, me donne tous les jours la preuve évidente que le Seigneur est en train de ressusciter son Église moribonde à bien des égards. Et si vous me permettez une plus grande confidence en passant, je vous avouerai que le plus dur dans la vie prophétique ne se situe pas tant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de notre être. Il est sûr et certain que les incompréhensions des autres, leurs critiques, fausses interprétations ou accusations et les diffamations de toutes sortes qui sont, hélas, trop souvent le lot de ces ministères en Église, ne sont pas choses agréables et souhaitées de prime abord. Mais sa grâce nous suffit au jour le jour, à condition d'être comme lui, pardonnant immédiatement et inconditionnellement à tous ses frères et sœurs qui, en fait, ne savent pas encore ce qu'ils font, et en les aimant quand même avec et comme le Seigneur. Et je vous certifie que je vis tout à fait dans cet état d'amour et de pardon sans limite envers eux. Le plus exigeant, croyez-moi, c'est plutôt le souci intérieur, constant et ardent, d'être parfaitement docile et disponible à son écoute, d'être en tout point fidèle à ses inspirations et à ses moindres requêtes, à son rythme, de manière à toujours être sûr et certain, les discernements, les partages et les consultations étant régulièrement assurés, être sûr et certain de faire et de dire que ce qui correspond parfaitement à sa très sainte volonté divine, rien de plus, rien de moins. Le supplice de la vie prophétique, il est là. Il nous tenaille et nous poursuit à la vérité jour et nuit. Mais avec lui et en lui, même ce supplice, je vous l'avoue, devient vite supportable et supporté, j'oserais même dire agréé et agréable, du moins à 16 heures, écrit avec un grand S, César à lui. Au moment où s'achève l'enregistrement de ces quatre interpellations et leur lancement que j'ai dû, ces interpellations que j'ai dû porter dans mon cœur depuis 1984 et leur lancement officiel au jour de la Pentecôte le 3 juin 1990, notre vice-présidente aux deux fondations, Hortense Lannoy, m'a gratifié il y a quelques jours à peine d'une exclamation percutante et à la fois très prophétique, un vrai flash de l'esprit. Et je cite, « Garde bien confiance, dit-elle, ton supplice achève. » Et après une courte pause, elle ajoute avec le même sourire, « Et ton martyre s'en vient. » Elle ne pouvait dire mieux en si peu de mots. En effet, Une fois les interpellations offertes au Seigneur et mises à la disposition de mes frères et sœurs en Église, mon supplice intérieur est terminé. En mon âme et conscience, je crois, malgré mes pauvretés, mes limites et mes faiblesses, avoir été très fidèle au Seigneur et avoir exécuté ses moindres vouloirs de A à Z. Mission accomplie, va en paix, mon frère. Quant à l'avenir, je devrai me soumettre aux martyrs que vont sans doute vouloir m'imposer ceux et celles qui ne voient pas, ne veulent pas voir ou ne voient que partiellement le vrai déclin continu de l'Église. N'osant avouer que le message les interpelle et les secoue, il va leur sembler plus facile de s'en prendre aux messagers. C'est la bonne vieille méthode, d'ailleurs inventée par Adam et Ève. Comme on ne choisit pas son martyr, je m'abstiens donc de leur suggérer quoi que ce soit, même pas mes préférences. Je suis prêt, moyennant ces grâces offertes et promises, de vivre toute attaque, de leur choix, improvisée ou calculée, toujours dans l'amour et le pardon envers eux, et l'amour, la paix et la joie au fond de moi. Souhaitons-nous donc mutuellement bonne chance dans l'accomplissement de ce grand commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à ce signe que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. En bref, pour citer Jésus et son pertinent conseil, de même, et je cite, « De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous était ordonné, dites, nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. » Et passons, si vous le voulez bien, à la conclusion générale. Nous voici donc rendus à la toute dernière étape de ce long pèlerinage en notre Église d'aujourd'hui pour demain. C'est le temps de conclure. Soit dit en passant, 4 interpellations de 3 heures chacune, au total 12 heures d'enregistrement sonore, cela équivaut en texte écrit imprimé à un volume de 275 pages. Disons d'abord au début de cette conclusion générale sur l'essor ou le déclin de l'Église, que ce que l'Église est maintenant appelée à vivre au cours de cette prochaine décennie, c'est ni plus ni moins que la parabole de l'enfant prodigue, du père et du fils aîné. Du fils prodigue, qu'est notre Église actuelle, à toute fin pratique, qui a cru pouvoir mener sa vie à sa guise, avec ses moyens, et a épuisé peu à peu son héritage et ses forces. Et le Père, qui n'a qu'un désir, notre Père du ciel, celui de le voir revenir, peu importe ses erreurs, ses détours, son état. L'amour et la miséricorde l'emportent, c'est le deuxième héritage que le Père veut offrir à son enfant. Et cela devient possible parce que le prodigue admet et confesse sa faute. Bien entendu, on va voir apparaître dans le décor le frère aîné, celui qui a été fidèle, a travaillé par devoir, s'est surmené, s'est épuisé, est resté au poste, mais qui devient jaloux, envieux, enragé même de voir exploser ainsi l'amour et la miséricorde du Père. Ce sera l'attitude de tous ses frères et sœurs en Église, les uns sages et intelligents, encore trop sûrs d'eux-mêmes, suffisants ou autosuffisants, les autres, les corrects, remplis de correctitude bien intentionnée et fidèle, pour qui l'Église doit être et demeurer une course d'endurance, un chapelet de devoirs bien accomplis, d'obligations observées, de tâches accomplies, des vies chrétiennes, bref, dont l'élastique a été et est toujours étiré au maximum et n'a plus de chance pour plus d'élasticité. Également, dans cette conclusion générale, je veux lancer en l'Église et à chacun de nous en particulier un triple appel important. Je me permets de vous et nous exhorter vivement, d'abord à redoubler d'amour vrai, adulte et chrétien pour notre Église. Ensuite, à redécouvrir le sens, la portée et toute l'importance du vrai combat spirituel chrétien. Enfin, à aller de l'avant, animé et stimulé par la plus grande espérance possible, car le printemps ecclésial est proche, tout proche, sûr et certain. Je reprends rapidement, un peu plus en détail, chacun de ces trois points. D'abord, l'amour vrai de l'Église. Je dis souvent aux futurs et aux nouveaux mariés de ne pas se surprendre. Il est normal que leur tout premier amour les rende souvent aveugles. Et j'ajoute immédiatement, ne vous en inquiétez pas trop, le mariage redonne très tôt la vue. Ce qui permet l'éclosion d'un nouvel amour encore plus complet cette fois. C'est la même chose dans tous les domaines. Quand on découvre l'Église pour de bon et qu'on se met à l'aimer, on devient assez facilement aveugle et donc porté à ne pas voir ou vouloir constater ses limites, ses erreurs ou ses faiblesses. On préfère s'en évader et tout sublimer. Mais dans un second temps, si on épouse vraiment la cause de l'Église, dans tout son être, la maturité chrétienne acquise fait jaillir en nous et de nous un amour pour elle encore plus fort, meilleur et plus complet. On l'accepte alors totalement, tant avec ses qualités qu'avec ses défauts, pour le meilleur et pour le pire, travaillant sans cesse, sans heurts et sans peur, à son constant progrès et renouvellement. En retrouvant ainsi la vue, on peut beaucoup mieux la servir, la protéger et la promouvoir. Le combat spirituel chrétien. Avouons, à notre courte honte, que nous avons pratiquement perdu le sens et la portée du combat spirituel chrétien. Il nous faut absolument le redécouvrir si nous voulons que notre Église puisse passer de son déclin actuel à un nouvel essor. Judoka le fourbe, le malin, a tout fait pour nous en détourner et nous a poussé à transférer nos élans de combattants dans des combats faux, inutiles ou dommageables entre nous chrétiens en Église, soi-disant au nom de la vérité, de l'orthodoxie ou du bon ordre à sauver. Le combat spirituel chrétien est différent des combats que l'on connaît dans le monde où les personnes s'affrontent. Dans le combat spirituel chrétien, on ne s'attaque pas à des personnes, mais à tout ce qui, en pensée, en parole ou en acte, nuit et détruit l'Église. Et la seule grande motivation qui doit nous inspirer, c'est l'amour à faire passer de notre cœur à celui de notre frère et sœur qui est dans l'illusion, l'erreur ou le mensonge. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce point dans une cassette intitulée « Le combat spirituel chrétien, qu'est-ce à dire ?» PH 2, 16. Enfin, troisième et dernier appel fraternel, je vous exhorte, frères et sœurs bien-aimés, à vivre à ce moment-ci dans la plus grande espérance chrétienne possible. Je vous le déclare sans l'ombre d'un doute. Le printemps ecclésial s'en vient, il est déjà là, si on regarde bien ce qui éclate déjà sous nos yeux, et si on prête aux âmes des autres une oreille du cœur attentive et priante. Le mal, et c'est un phénomène nouveau, devient en quelque sorte l'allié inconscient du bien. Par ses erreurs et ses mauvais calculs actuels, innombrables et innommables. La confusion et l'inquiétude des plus généralisés dans le monde appellent comme jamais auparavant, peut-être. Une solution urgente, sans doute, mais vraiment hors de l'ordinaire. Au-dessus de nos puissances reconnues de plus en plus maintenant comme étant limitées, faillibles et partisanes. À ce propos, je vous recommande la lecture d'une conférence exceptionnelle du cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, conférence intitulée « La nouveauté du Christ et la postmodernité », prononcée à l'université d'Augsbourg. Il démontre fort bien comment l'impasse grave et coupable de notre monde à l'heure actuelle, loin de fermer pour de bon le dossier du christianisme, l'ouvre peut-être vraiment, sérieusement, et que nous sommes possiblement à vivre les véritables débuts de l'ère chrétienne. En tous les cas, personnellement, j'en suis convaincu de bord en bord. Les grâces divines d'amour trinitaire et de miséricorde infinie font déluge sur l'humanité, et j'ajouterais qui serait anéantie sans elles. Et elles font déluge comme jamais auparavant, ce qui n'est pas peu dire. À qui sait être assez humble et simple, docile et disponible pour les accueillir, cela devient une évidence évidente de tous les jours, que dis-je, de tous les instants. Si tels sont les signes d'espérance nouveaux mais réels que nous suggère l'impasse grave universelle où se trouve le monde d'aujourd'hui, l'Église, a fortiori, plus que jamais, doit devenir en ce monde désemparé, selon le vœu même du Christ rappelé par Paul aux Éphésiens, et je cite, « une Église splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Lui, le Christ, a voulu son Église sainte et irréprochable. Comme lui s'est déjà livré pour elle, nous devons, nous aussi, aimer l'Église au point de nous livrer vraiment pour elle. » Sur cette note d'espérance, j'ai le goût de vous ouvrir encore davantage mon cœur et de vous faire, à vous mes frères et sœurs, du Québec en particulier, une petite confidence maison, inédite et prophétique. Depuis des années et des années, vous l'imaginez bien, avec mes frères et sœurs, visibles ou invisibles en communauté chrétienne, je porte intensément et quotidiennement, dans de longues heures de prière, de louanges, de réparations et d'offrandes, ce vœu ardent d'une vraie relance spirituelle de l'institutionnel de notre Église à la grandeur du monde et à tous les niveaux. On comprendra aisément que je prie avec une intention toute particulière, et c'est bien normal, pour notre Église au Québec, dans laquelle je suis enraciné et incardiné avec joie et fierté. Or, en ces moments privilégiés et comblants, passés, selon mon expression courante, en état de silence actif auprès du Seigneur, je vous avouerai confidentiellement que trois noms d'évêques québécois me montent fréquemment dans le cœur depuis quelques années, et toujours les trois mêmes. C'est comme si l'Esprit du Seigneur voulait que je prie encore plus fort pour eux et que je le loue d'avance pour la belle et grande mission qu'il leur réserve. Après un sérieux discernement spirituel, jeûné et prolongé, je me sens autorisé aujourd'hui à vous partager que l'un des trois est précisément notre nouvel archevêque de l'archidiocèse de Québec et donc le nouveau primat de toute l'Église du Canada, en fonction à ce poste depuis quelques semaines à peine, Monseigneur Maurice Couture. Fait assez curieux, je n'ai pas le plaisir de connaître personnellement ce prélat. Visiblement, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais invisiblement, je sais qu'il sera un prophète du désencombrement et du retour à l'essentiel spirituel, devenu indispensable en notre Église, sur les plans notamment intellectuels, structurels et pastoraux. J'exalte déjà le Seigneur avec vous et l'en remercie d'avance. Oui, mes frères et sœurs en Église du Québec, un nouveau leadership vraiment spirituel, celui-là, pointe déjà à l'horizon. Gardons confiance. Nous connaîtrons tôt ou tard, en version moderne, sous nos yeux, ce que saint Jean nous décrit au verset 13 à 16 du chapitre 2 de son Évangile. Et je vous laisse l'initiative et la joie de vérifier vous-même cette référence. À fréquenter Cristallin, on finit par prendre ses tactiques. À Cristallin, Cristallin et demi. Dans cette note d'espérance, je crois que je peux faire rien de mieux que de relire avec vous ce message prophétique que j'ai inclus dans la brochure « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage », brochure publiée le 10 juin 1984. Et je vous lis le contenu de ce message. Non, ne craignons pas. Ne craignons pas, un nouveau printemps ecclésial s'en vient. Il est proche, tout proche. C'est sûr et certain. Je me dois de partager l'assurance que j'en ai avec trois groupes en particulier de mes frères et sœurs en Église. D'abord avec ceux et celles qui ont été fidèles à leur engagement chrétien, d'état d'âme et d'état de vie, même si à certains moments, ils ou elles ont connu des détours ou des arrêts. Ainsi qu'avec cette multitude d'autres qui ont laissé le Seigneur renouveler de fond en comble leur vie spirituelle depuis Vatican II. Ensuite, avec ceux et celles qui ont décroché, souvent bien malgré eux ou elles, pour avoir été, hélas, déçus, bousculés, blessés ou meurtris même par l'Église, ses représentants, ses représentantes, soi-disant hommes ou femmes d'Église. Enfin, avec tous mes frères et sœurs qui, pour des raisons que nous n'avons pas jugées, n'ont pu persévérer dans leur engagement sacerdotal, communautaire, religieux ou matrimonial, et qui, dans leur présente situation, se sentent souvent, à tort ou à raison, lâchés par l'Église. À tous, sans exception, je dis immédiatement, du fond de mon cœur et sans hésiter, le temps de grâce du Père est venu, un nouveau souffle de Pentecôte qui arrive des régions de son cœur nous entre dans le siècle de sa miséricorde infinie pour tous. Au premier, je dis avec confiance, tenez bon et persévérez, vous verrez bientôt le comble à vos et ses désirs. La véritable Église s'en revient. Par l'annonce de son message de vie, d'espérance et de miséricorde, beaucoup se laisseront convertir. Une foule immense suivra à nouveau ses pasteurs ressuscités. Beaucoup de prêtres, de religieux et de religieuses seront guéris de leurs maladies spirituelles. Leurs yeux s'ouvriront, leurs oreilles entendront à nouveau le langage de l'éternel amour. Et leur langue, liée jusqu'ici par la peur, se mettra à annoncer que Dieu est saint et qu'il pardonne. Des réconciliations et des renouvellements de consécration et d'options en lui, sans nombre, auront lieu. Les jeunes qui ont été les victimes de notre sevrage spirituel des derniers 25 ans retrouveront rapidement et profondément la voie VOIX du Seigneur et la voie VOIE de son Église. Je déclare avec audace que le moment au deuxième groupe, que le moment de votre vengeance évangélique en lui et avec lui est tout près. L'Église, dans son style de vie, de fonctionnement actuel, va connaître, de par l'action même du Seigneur, une rénovation profonde. Vous ne pourrez vraiment plus, à la vérité, résister au désir de vous raccrocher à nouveau à cette Église, qui aura pour unique bon pasteur Jésus qui s'est laissé ouvrir le cœur pour y loger tous ses fidèles. C'est par son cœur transpercé de fils obéissants, baigné dans la volonté du Père, que ces pasteurs, prêtres, religieux et religieuses en Église, ceux et celles qui vous ont hélas déçus ou blessés, vont renaître et revivre. Le succès de cette mission de rédemption et de résurrection est d'ores et déjà assuré. le Seigneur dit et accomplit. Et au troisième groupe, je confie avec assurance, ne craignez pas, votre prise en otage achève. Lors d'une amnistie spirituelle inconditionnelle, où vous vous retrouverez enfin, fidèle à part entière en Église et toute proche, car il est paternité qui a la puissance de nous aimer tous infiniment et de nous sauver tous par la chair sacrée et le précieux sang de son Fils. Croyons-le, ce nouveau printemps ecclésial sera fait de pardon et de miséricorde. Le vivant, le ressuscité fera miséricorde pour purifier, relever et rebâtir son Église. Enfin, à vous et à nous tous, je redis le conseil même du Seigneur, demandez et vous recevrez. L'Église, œuvre du Seigneur, est à la portée de sa grâce et à la portée de nos cœurs. Serons-nous dignes de mériter à nouveau son Église tout à fait à lui? Je le crois. Et comme le temps passe, je ne peux pas m'arrêter. Je vais m'arrêter ici dans le texte que vous pourrez retrouver, comme j'ai dit, aux pages 11, 12 et 13 de la brochure « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage ». Et maintenant, avant de tirer ma révérence et de vous dire au revoir, bien chers frères et chères sœurs en Jésus, vous qui venez de cheminer avec moi tout au long de ces quatre interpellations, je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour votre écoute et votre accueil. Un merci tout spécial à vous qui êtes venus en si grand nombre et de tous les coins de l'horizon pour m'accompagner, si plein de foi, d'amour fraternel et de ferveur priante, en ces derniers jours d'enregistrement des cassettes et en celui de la Pentecôte 1990, occasion de leur proclamation et lancement officiel. Un merci sincère également à l'équipe compétente et dévouée de notre service des éditions. Un merci également à mon ami et accompagnateur Cristallin. Puisse cette mini-charte, pour ainsi dire, vous être source toujours jaillissante et fraîche de lumière, d'encouragement, de soutien et de persévérance dans votre quote-part personnel à cette relance spirituelle indispensable de notre Église. Durant toute ma vie, mes projets d'importance ont toujours été confiés avec foi et ferveur entre les mains de l'Esprit-Saint et de la Vierge Marie. Cette fois-ci encore, en terminant, c'est vers lui et vers elle, avec vous tous, si vous le voulez bien, que je tourne mon regard, que je joins mes mains et laisse déborder mon cœur. Recueillons-nous donc ensemble. Ô viens, Esprit Saint, feu d'amour et feu de gloire, viens nous envahir tous en ce temps privilégié d'une nouvelle Pentecôte, pour le renouveau spirituel encore beaucoup plus en profondeur de l'institutionnel en Église et de l'Église. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tous ces fidèles qui disent un oui vrai, total et définitif à ce que l'Église redevienne vraiment l'œuvre par excellence du Seigneur et cesse d'être appropriée par nous et animé par nos seuls pauvres moyens, si faibles et bien limités. Ô lumière bienheureuse, puissance d'amour, de joie et de paix, viens, ô Esprit Saint, confirmer et soutenir chacun et chacune de nous dans ce désir de contribuer à la relance spirituelle en et de l'Église. Viens déverser jusqu'à l'intime de nos cœurs toutes les forces d'intelligence, d'audace, de sagesse et de persévérance requises pour nous associer de la bonne manière en tant qu'instrument véritable à cette œuvre divine du renouvellement de l'Église. Ô viens, Esprit Saint, nous convertir, nous purifier et nous transformer comme il se doit. Selon les promesses mêmes de Jésus, ô Esprit de vérité, viens renouveler la face de la terre et pour cela renouvelle profondément nos cœurs et nos esprits et le cœur et l'esprit de l'Église tout entière. Conduis-la à la vérité tout entière. Redis-lui ce que tu entends du Père et du Fils. Fais-lui se ressouvenir à cette heure décisive de tout ce que Jésus attend d'elle et de nous et éclaire-la cette Église au jour le jour sur tout ce qui doit venir. Ô Esprit Saint, sois notre force, notre guide, notre consolateur et notre protecteur face aux influences adverses qui vont tenter de contrecarrer ce changement de style indispensable et cette relance spirituelle en Église. Maman Marie, Reine du Ciel et Mère de l'Église, nous te confions notre oui. Donnez librement et en connaissance de cause à cet appel du Seigneur qui veut, à bon droit, relancer spirituellement son Église. Développe en chacun de nous cette petitesse d'âme dont tu as été le parfait modèle, afin que ton Fils bien-aimé, chef désigné par le Père à la tête de l'Église, reprenne sa place, toute sa place en notre Église, d'abord en chacun de nous, et ensuite qu'il redevienne maître au milieu de nous, vraiment chef de file à travers nous, dans la réalisation continue de son œuvre de salut. Ô Vierge Marie, au nom de tous mes frères et sœurs qui disent oui à cet appel divin à une relance spirituelle de notre Église, et ils sont très nombreux, tu le sais, je dépose dans ton cœur, de Mère de l'Église, leur et notre consentement à cette rénovation profonde de toute la communauté ecclésiale actuelle. Puisse notre offrande et très grande confiance en ta puissante médiation susciter de nouveaux fils et filles pour l'Église qui s'en revient. Ô Esprit Saint, feu d'amour et feu de gloire, et toi, Maman Marie, je vous confie, abandonne et consacre ces interpellations. Puisse-t-elle être pour les uns l'occasion d'un réveil, pour d'autres une confirmation, une source nouvelle d'espérance, mais pour tous un grand défi et l'occasion privilégiée d'une puissante effusion d'amour, de joie et de paix, véritable et durable, jaillissant du grand cœur trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. Mes frères et sœurs dans le Christ, encore une fois, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint descendent et demeurent en vous. Amen. Alléluia.